soir dans le livre de Matthieu. Mais avant cela, je voudrais vous donner des nouvelles du deuil. En principe, la sœur Magali et la sœur Nicole prennent l'avion demain. La dépouille du frère Yedidja, de Sorcel. Ils arriveront dimanche. Dimanche matin. Le reste du programme, je ne connais pas. Mais non, on a pu avoir le compte tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, la sœur, les deux sœurs viennent samedi. Le frère Alain, il y avait encore quelques démarches à faire, mais il compte venir aussi. Le papa, donc, ainsi que une tante à Chancel qui voudrait aussi venir. Que le Seigneur puisse leur ouvrir la porte et comme ça, ils seront tous là. Et ça fait bizarre d'en parler, mais bon, il faut en parler. Si on ne met pas sur le compte WhatsApp, tout simplement parce que eux-mêmes ne le font pas. Et nous ne devons pas le faire avant eux. J'ai regardé chez Yves. Yves en parle. Yannick, pas vraiment. Joyce non plus. Sœur Nicole non plus. Magali non plus. Donc, c'est difficile dans cette condition de prendre les devants et d'écrire des choses pendant que la famille ne le fait pas. Ça va? Ici, c'est frère Jean-Gérard qui m'a... Il leur a rendu visite aujourd'hui. C'est lui qui m'a communiqué un peu tout cela avant que je ne vienne. Nous allons prier. Père Céleste, toi qui consoles les cœurs, nous avons... Difficile, c'est vrai. Mais tu ne demandes pas à tes enfants de faire des choses faciles. Ce que tu nous demandes, c'est de ne pas nous laisser abattre, que nous puissions avoir l'assurance de notre victoire. Nous en remettons à toi et comptons sur toi pour continuer la marche. Et nous voulons nous souvenir de notre bien-aimé, des enfants qui sont enfants de notre frère, qui sont restés. Nous voulons nous souvenir de l'épouse, nous voulons de la maman, du papa, de toute la famille. Que tu les bénisses, que tu les assistes, que tu les soutiennes. Et Seigneur notre Dieu, que comme nous venons de le chanter, que tout se fasse selon ta volonté, comme tu veux. Parfois, nous mêlons cette phrase avec des larmes, c'est vrai, mais c'est de tout notre cœur que nous disons que ta volonté soit faite. Maintenant, nous allons lire dans ta parole, que tu nous conduises dans la prédication, que tu nous aides, que tu veuilles bien nous pardonner nos péchés. Là où les genoux chancellent, là où les mains languissent, que tu nous fortifies à nouveau. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Matthieu 25. Verset 5, 6. Et 7. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler de ce cri en prêchant, on n'enseigne pas. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et lorsque nous regardons en type comment l'épouse, dans le cas de Rebecca, est allée vers son époux, vers Isaac, dans Genèse 24, verset 57, après qu'Éliézer ait parlé aux parents de la jeune fille, nous lisons ceci. Alors, ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Elle doit donner son accord. Ça va? Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Et nous savons que Rebecca a fait le voyage en chameau. Elle est partie, donc verset 60, il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Les serviteurs amena Rebecca et partit. Pour avoir déjà dit que quand vous prenez le mot chameau en hébreu, n'est-ce pas, ça donne parmi les... Il y a plusieurs définitions, mais parmi les définitions qui sont données, il y en a une qui dit travailler ou marcher avec un lourd fardeau. Et ce qui signifie que cette phrase, cet ordre, ce cri, lorsqu'il dit « voici l'époux », lorsqu'elle dit « voici l'époux », aller à sa rencontre, en lisant, ça semble facile. Mais aller vers l'époux, ce n'est pas une marche de tout repos. Aller à la rencontre de l'époux, ce n'est pas un chemin facile à entreprendre. Ce qui était le cas de Rebecca, ce qui est le cas de l'épouse aujourd'hui. Pour aller à la rencontre de Jésus-Christ, c'est un chemin rempli d'épreuves. Il y a des épreuves, c'est au travers des épreuves, au travers des tribulations de la vie, que l'épouse doit aller à la rencontre de Jésus-Christ. Puisque si vous allez à sa rencontre aujourd'hui, c'est au travers des tribulations, des afflictions, au travers d'épreuves. Et ces tribulations, ces épreuves, ces afflictions, elles sont nécessaires dans la progression de l'épouse. L'épouse doit être travaillée. Et la façon de Dieu de travailler, c'est de tailler. Amen. Tailler en éprouvant. Tailler par la parole. Tailler par des tribulations. Et tout au long des âges, en tout cas, les âges de l'Église, on peut regarder, ça n'a pas été facile. Nous lirons d'ailleurs certaines choses dans les âges de l'Église. Je connais cela. Mais il est question, à chaque âge, il est question de vainqueur. Dans la marche de l'épouse, vers l'époux. Vous allez me dire, oui, mais la première église d'Éphèse, c'était à fait au début, oui. C'est tout à fait au début, mais l'épouse de ce temps-là, elle aussi, elle allait à sa rencontre. Il n'y a pas que nous, ici, au temps de la fin. C'est le cas d'Éphèse, c'est le cas de Smyrne, de Pergame, Thyatire, Philadelphie, Laodicée, Sardes, j'ai oublié Sardes, n'est-ce pas? Philadelphie et Laodicée. C'est le cas de nous tous. Et ces tribulations sont nécessaires. Dans Jean 16, d'abord, Jésus nous prévient. Verset 29, ses disciples lui dirent, après qu'il leur ait dit, je vais au Père, il dit, voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Non, maintenant il parle ouvertement. Il dit, maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, voici l'heure vient. Et elle est déjà venue. Et vous serez dispersés, chacun de son côté. Il leur annonce des temps difficiles. Et où vous me laisserez seul? Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Ces afflictions, ces tribulations ne devraient pas nous enlever la paix que Christ nous donne. Le shalom que nous nous disons en nous saluant, nous savons très bien que le frère ou la sœur à qui nous disons shalom est un frère ou une sœur éprouvée. Nous sommes tous éprouvés. Nous passons tous par des épreuves. Et c'est pourquoi, lorsqu'on se salue ainsi shalom, n'est-ce pas, que la paix de Dieu soit avec toi, quand Paul, dans toutes ses épîtres, n'arrêtait pas de saluer les églises, les frères, en disant que la paix du Seigneur soit avec vous, c'est parce qu'il savait que c'était le lot de chacun. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ subissent la persécution. David disait, le malheur, c'est le psaume 34, atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est une certitude. Celui qui n'en a pas a quelque chose qui ne va pas. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et si Dieu permet qu'il y ait des tribulations, qu'il y ait des secousses sur le chemin, c'est parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire dans la progression de l'épouse telle pour la rencontre qu'elle doit avoir avec le Seigneur. Dans Romains chapitre 5, et le chemin n'est pas facile, dans Romains chapitre 5, l'apôtre dit, atteint souvent le juste, mais sommes justifiés par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Demeurons fermes dans la foi et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et avant de continuer, nous retenons la page, nous allons un peu dans Matthieu 10, et nous voyons que cette persévérance, nous en avons besoin. Jésus prédit des temps difficiles. Dans Matthieu 10, verset 22, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Ne restez pas là à vous lamenter. Fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Et quand il vient, c'est justement pour venir à la rencontre de l'épouse. N'est-ce pas? Pour la chercher. On revient dans Romains chapitre 5. Donc, l'affliction produit la persévérance. La persévérance, elle produit la victoire dans l'épreuve. Alors, on garde encore la page, la victoire. Si nous regardons les églises, l'église du Seigneur, depuis, dans Apocalypse, depuis Éphèse jusqu'à la Odyssée, il y a toujours cette phrase à la fin, à celui qui vaincra. Celui qui vaincra, il y a une promesse qui vient. Pourquoi? Parce que l'église, tout au long des âges, l'Église passera par des moments difficiles. On dira pourquoi c'est nécessaire. Et que tu as, donc, dans Apocalypse 2, verset 2, il parle à l'Église d'Éphèse, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Ça va? Il faut qu'il y ait de la persévérance. Et nous avons à la fin, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie, de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Smyrne, au verset 8, il dit ceci, « Je connais ton affliction et ta menace, et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, et qui sont une synagogue de Satan. » Smyrne aussi a la promesse, « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Il y a deux morts. Il y a la première mort, il y a la seconde. Et la seconde, c'est la mort définitive. Et dans l'église de Pergame, là, c'est une épreuve dans la moralité. Puisque nous le trouvons ici, ils sont éprouvés. Donc, verset 13, « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. » Alors, vous pensez bien, là où est le trône de Satan, pensez bien que les tentations sont nombreuses. Vous êtes tentés de toutes les manières qu'il faut. Vous êtes tentés, n'est-ce pas, aller dans le monde, tu retiens, mais malgré tout, tu retiens mon nom. C'est une victoire. Et tu n'as pas renié ma foi. C'est une victoire. C'est Paul qui dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voilà un vainqueur. Ça va? Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. N'est-ce pas? Il y a le reproche qui vient, ça, ce sera pour une autre fois. Mais ce que je voudrais vous montrer, celui qui vaincra, verset 17, il y a aussi une promesse pour les vainqueurs. Celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Alors, vous pouvez continuer avec Thyatire et vous verrez que Thyatire également ne passera pas des moments faciles. Verset 22, je vois Je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Cette tribulation qui est jetée parmi eux, parmi l'Église, c'est dans le but de les amener à la repentance. Donc, c'est une nécessité. Sardes a également eu ces temps difficiles. Sardes aussi a eu ses vainqueurs, Philadelphie et Laodicée. Laodicée, c'est encore pire, puisque la séduction est telle que, finalement, Christ n'est même plus dans l'église. Il est dehors et il frappe à la porte pour qu'on puisse se lui ouvrir. Mais malgré cela, malgré ces difficultés-là, à Laodicée aussi, il y aura un vainqueur.
Amen.
Il y aura des vainqueurs. Amen. Alors, justement, cette victoire, on l'a comment? En persévérant. C'est ce que Paul dit aux Romains, Romains 5. Donc, l'affliction qu'on subit produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Dites amen à ça. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Et cette victoire produit l'espérance. L'espérance nous est nécessaire. L'espérance, on en a besoin. L'espérance allège nos souffrances. L'espérance aide à supporter la souffrance. Et nous avons, quand nous avons cette espérance et que nous vivons des temps comme celui que nous vivons là aujourd'hui, hein, tellement nous sommes meurtris, c'est l'espérance que Dieu nous a donnée, l'espérance de Jésus-Christ qui vient et il nous ramènera à la vie, n'est-ce pas? Cette espérance-là, ça nous allège la souffrance d'avoir perdu un bien-aimé au milieu de nous. Par l'espérance de Jésus-Christ, on sait qu'il vient et il ne peut pas mentir. S'il nous a dit qu'il venait, il va venir. Il ne pouvait pas dire qu'il viendrait et les apôtres perpétuaient cette promesse, n'est-ce pas, si eux-mêmes n'avaient pas expérimenté, c'était la vérité. N'est-ce pas? Et donc, il nous est dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas. Les afflictions sont là. Mais l'apôtre, donc, comme on l'a dit la fois passée, je crois que c'était dimanche, l'apôtre ne nous interdit pas de nous affliger. Mais nous affligeons, mais nous ne nous affligeons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous, on a eu notre espérance. On a eu cette espérance comment ? Timothée nous dit que c'est Jésus notre espérance. Nous avons eu cette espérance comment? Ben, tout simplement en persévérant. En persévérant dans l'épreuve, en persévérant dans la foi, restant ferme dans la foi, nous avons obtenu la victoire dans l'épreuve et la victoire nous a donné l'espérance. N'est-ce pas? Pourquoi ces tribulations, ces afflictions sont-elles nécessaires? Tout simplement parce que elle contribue quelque part à notre transformation. Que nous soyons amenés à être semblables à Christ, à sa ressemblance. L'apôtre Paul nous dit ceci dans 2 Corinthiens 3. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit.
Amen.
Et là où est l'Esprit du Seigneur,
Amen.
Là est la liberté.
Amen.
Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Saint-Esprit qui nous est donné, eh bien, ce Saint-Esprit nous transforme à son image. Et le Seigneur, pendant qu'il prêche, il donne la parabole sur les vierges, il dit « Allez à sa rencontre ». Et lorsque vous allez à sa rencontre, eh bien, vous savez, c'est pendant ce déplacement-là, pendant cette marche-là, pendant que vous allez à sa rencontre, c'est là que vous êtes transformé en la même image que Christ. Et Jean dit, quand nous le verrons, nous serons comme lui, tel qu'il est. N'est-ce pas, je crois que c'est 1 Jean chapitre 3, si je me souviens bien. C'est bien ça. Dit. C'est premier. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Vous êtes enfants de Dieu?
Oui.
Dieu vous bénisse. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, c'est une espérance. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. L'espérance que nous obtenons, n'est-ce pas, en persévérant, en ayant la victoire, en ayant la victoire dans les épreuves, cette espérance, n'est-ce pas, eh ben, nous pousse à chercher à être purifié. Qu'est-ce qui nous purifie? La parole.
Amen.
La parole de Dieu qui nous purifie. Donc, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur.
Amen.
Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre, ça passe par l'une ou l'autre étape. Ça dépend dans quel état vous serez lorsque il viendra. Lorsque il viendra vers nous pour que nous puissions aller à sa rencontre. Aller à sa rencontre pendant qu'on va à la marche, certains sur le chemin, n'est-ce pas, vont tomber. Certains vont mourir. Certains, pour eux, pour arriver à Jésus-Christ, ceux qui sont morts devront passer par une résurrection pour pouvoir le rencontrer. Ceux qui ont commencé la marche du temps d'Éphèse, ils se sont tous endormis. Et pour qu'ils puissent le rejoindre sur la nuée, ils doivent ressusciter d'abord. Ça va? Pour ceux qui sont vivants, par exemple, s'il vient maintenant, eh bien, nous venons de lire ici dans 1 Jean 3, nous ne sommes pas encore ce que nous devrions être, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons lu, hein, mais on va lire, cela. Il dit, oui, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Donc, on n'a pas encore atteint le but. On n'a pas encore atteint cela. Mais eux, pour arriver à la rencontre du Seigneur, ceux qui sont vivants, ils devront passer par une transformation. Qui ça? Tous ceux qui faisaient partie des églises? Non, pas tous. Parce qu'au sein même de chaque église, il est adressé un message particulier à celui qui vaincra.
Amen.
Il n'est pas dit que l'église tout entière d'Éphèse vaincra. Il n'est pas dit que l'église tout entière de Smyrne vaincra. Mais dans l'église d'Éphèse, il y a des vainqueurs. Dans l'église de Smyrne, il y en a. Dans Pergame, dans Thyatire, dans Sardes, Philadelphie, dans Laodicée. Même si les combats sont compliqués aujourd'hui dans la Odyssée, sachez ceci, Dieu a des vainqueurs dans la Odyssée. C'est vrai, la séduction est forte dans la Odyssée, mais il y aura des vainqueurs sur la séduction. Ils devront tous, n'est-ce pas? Pas tous, mais ils doivent subir soit une résurrection, soit une transformation pour les vivants. Et la condition pour ressusciter, pour participer à la résurrection, c'est être en Christ. C'est la condition. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans Philippiens 3. Verset 7. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et c'est ce que nous demandons ce soir, à le connaître. Ça a été la demande de Moïse. C'est notre demande, c'est notre vœu le plus cher. Parce que si on le connaissait, on lui demanderait la chose juste. N'est-ce pas? Donc, à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. C'est très important que pendant que nous sommes en chemin, que ce soit que nous devrions nous coucher ou que nous soyons debout, une chose est sûre, c'est qu'avant d'être couché, ce serait bien d'être en lui. Amen. Si on est vivant et que nous disons que nous attendons sa venue, ce serait bien d'être en lui, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, non pas parce que de ma propre force, moi, j'ai arrêté de boire ou de fumer ou de me droguer ou d'arrêter l'adultère ou quelque chose, non, mais la justice que j'ai obtenue, que Dieu m'a imputée, lorsque j'ai cru en sa parole, lorsque j'ai cru en la prédication de l'évangile. Et c'est là, au moment où j'ai cru, que Dieu m'a justifié. Normalement, j'étais là quelque part dans la poubelle, j'étais dans la fange. Eh bien, Dieu m'a sorti de la poubelle, n'est-ce pas? Tel que j'étais là, il m'a sorti et il m'a mis sur une meilleure place. Et même mettre de côté, ça c'est sanctifier. Ça va? Mettre à part pour un service. Hein? Le service, je vous l'exemple du verre qui tombe. Parce que vous allez vous en servir un jour. Et avant de vous en servir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le laver. Lavage d'eau de la parole. N'est-ce pas? Vous allez le laver, et ce n'est pas tout. Maintenant, vous avez un beau verre lavé. Hein? Si vous le mettez dans l'armoire, juste pour montrer que vous avez un beau verre, ça ne sert à rien. Le verre doit vous servir, hein, n'est-ce pas, à boire dedans, à le remplir. Et on remplit ce verre. Et quand on remplit ce verre, c'est vous qui êtes rempli du Saint-Esprit. Alors, donc, je les regarde comme afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Ça, c'est son espérance en lui, à Paul. Il veut être trouvé en Christ, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec la justice qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Alors maintenant, ses souffrances, quand je vous disais que c'est nécessaire, en devenant conforme à lui dans sa mort. On devient conforme à lui, comme lui, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Mais, bien aimé, ce n'est pas facile. L'apôtre dit, écoutez, malgré tous mes efforts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, je ne l'ai pas encore eu. Et il a écrit ça, cet épître, il était en prison.
Alléluia.
Paul était en prison. Il passait des moments difficiles. Ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alors il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, oubliez ça. C'est fou ce qui est en arrière, c'est fou ce que ça peut vous retarder. C'est que vous êtes là, vous pensez avoir tout confessé. Vous êtes à un moment sûr que vous avez tout confessé, que vous êtes en ordre devant Dieu, que bon, vous êtes en paix avec Dieu et maintenant, un malheur vous arrive. Ou bien un problème, vous tombez malade. Un malheur vous arrive. Ok ? Seigneur, ça va, merci, j'avais. Un deuxième malheur vous arrive. Et puis un troisième malheur vous arrive. Je n'en sais rien, combien ? Un peu comme Job. Job était là, c'était coup sur coup. Celui qui ramenait les nouvelles, il n'avait pas encore terminé de parler qu'une autre nouvelle arrivait. L'autre donnait ses nouvelles à lui, et puis il n'avait pas encore terminé qu'une autre nouvelle arrivait, jusqu'à ce qu'il ait tout perdu. Alors, qu'est-ce que Satan va vous dire ? Maudit Dieu. Il va vous dire ça. Satan va vous dire tout ça, et pourtant, qu'est-ce que vous avez fait ? Il va même mettre un doute sur votre confession. Est-ce que j'ai vraiment bien confessé ? Mais frère, si tu as bien confessé, reste en paix.
Amen.
Ce n'est pas, même si ces malheurs-là arrivent, toi, demeure ferme dans la foi.
Amen.
C'est pour cela que nous restons dans cet enseignement. N'oubliez pas, Dieu est miséricordieux.
Amen.
Et compatissant.
Amen.
Tout ce qui a fait les choses correctement.
Demandez
au Saint-Esprit de vous conduire, que vous avez besoin de confesser, vous avez besoin de vous repentir, demandez au Saint-Esprit de vous aider dans votre repentance, dans votre confession, dans votre retour, quand il dit « revenez à moi », ben, regardez si vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Maintenant, les malheurs qui arrivent, nous l'avons chanté ici. Comme tu veux, Seigneur. Comme Dieu. Ça va? Il ne faut pas que Satan vienne nous dire, en vrai, ces choses vous arrivent parce que, moi, vous, ceci, vous... Non. Ces choses-là, oubliez ça. Paul, c'est quoi? Qu'est-ce qui est en arrière, derrière Paul? Lisons un peu plus haut. Qu'est-ce qui est derrière Paul? Qu'est-ce qu'il veut oublier? Hein? Verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Donc sa chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Et je ne suis pas n'importe qui, moi, Paul. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Il connaissait sa position. Et il savait qui il était. Hébreu, né d'Hébreu. Quant à la loi, pharisien, j'en connais. J'ai été levé au pied de Gamaliel. Je surpassais même certains qui étaient plus avancés que moi en âge. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Et là, Satan revenait chaque fois essayer de lui rappeler ça, qu'il a été persécuteur de l'Église. Ça, Dieu a pardonné.
Amen.
Si Dieu a pardonné, Continuez la marche, persévérez. Ne l'écoutez pas, celui-là. Il essaye de vous retarder. Alors il dit, oubliant ce qui est en arrière, donc les persécutions que je faisais, oubliant ça, que j'ai approuvé la mort d'Étienne, c'est vrai, je l'ai confessé, c'est vrai, oublie ça. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est Dieu qui vous a appelé. Alors maintenant, quand Dieu vous a appelé ainsi, il vous a mis en Jésus-Christ, il dit, tous donc qui sommes des hommes faits. Une fois en Christ, vous êtes un homme, une femme fait, vous faites, c'est-à-dire accompli. Ça va? Ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. La marche n'est pas facile. C'est vrai. Mais, pour arriver à la rencontre du Seigneur, il faut passer par une résurrection. Mais pour passer par une résurrection, l'apôtre, toujours Paul, il nous dit, on revient à 1 Thessaloniciens 4, verset 15, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. »
Amen.
Ça va? Pas d'après la parole de Paul, non. La parole du Seigneur. C'est le Seigneur qui lui a dit ça. Il a dit un peu plus haut, il dit, « Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. » Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants. Vous voyez que Paul était aussi dans la marche, il se voyait vivant à la venue du Seigneur. Quand les bien-aimés qui nous ont précédés, lorsque Jésus-Christ va les réveiller, eh bien, si aujourd'hui Jésus-Christ vous montre que vous serez enlevés, et que vous devez quand même passer par la tombe, vous ne verrez pas votre passage par la tombe, mais vous verrez seulement au moment où vous serez enlevé. Et vous vous verrez vivant. Évidemment, il n'enlèvera pas les morts. Avant que celui qui est mort n'arrive à lui, eh ben, il faut d'abord qu'il le ressuscite. Hein? Donc il dit, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devançons pas ceux qui sont morts, ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, c'est lui-même. Ça, Gabriel ne peut pas faire ça. Gabriel ne peut pas ressusciter les morts. La Bible nous dit Dieu seul ressuscite les morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Un archange, c'est un chef. Donc, ce sera un ordre d'un chef. À la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors, quand il descendra du ciel en criant à la voix de l'archange et au son de la trompette, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les morts en Christ, oui. Pas tous les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Amen.
Et c'est cette résurrection-là que Paul voulait avoir.
Oui.
C'est après cette résurrection-là qu'il courait. Parce qu'il y aura une résurrection générale.
Oui.
La résurrection générale, ça, ce sera pour le jugement.
Oui.
Ouais. Ce sera pour le jugement, mais ceux qui sont en Christ, ils ont leur résurrection à eux.
Amen.
Non pas pour le jugement, mais pour aller rencontrer le Seigneur.
Amen.
Aller à la rencontre du Seigneur.
Amen.
Et pour aller à la rencontre du Seigneur, on a besoin de cette huile, de l'huile qui nous conduit jusqu'à lui. Parce que comment entrons-nous en Christ? N'est-ce pas?
Oui.
On va revenir dans 1 Thessaloniciens 4. Comment entrons-nous en Christ? 1 Corinthiens, n'est-ce pas? On le dit très bien, on le sait, mais ça ne nous empêche pas de lire. et c'est-à-dire dans le corps de Christ. Car, verset 12, car, 1 Corinthiens 12, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ça veut dire que mon corps ici a plusieurs membres, n'est-ce pas? Mais chaque membre fait partie de mon corps, ok? Et pour ce qui est de Christ, chacun est un membre du corps de Christ, il fait partie du corps de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est peut-être la main, il est peut-être le doigt, il est peut-être le pied, il est peut-être je ne sais pas, la jambe, que sais-je, la tête c'est lui.
Amen.
Il est peut-être, vous êtes peut-être une partie du ventre, que sais-je, mais vous faites partie du corps de Christ.
Amen.
Vous tous les chrétiens ensemble du monde entier, pas seulement de la rue de Firlan, tous les chrétiens ensemble font partie du corps de Christ. Et ils forment le corps de Christ. Ils forment le corps de Christ. Ainsi, nous avons tout, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous formons donc le corps de Christ. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Amen. Alors, pour ce qui est des vivants, Paul nous dit, donc d'abord, les morts en Christ, ceux qui sont morts, qui étaient dans le corps de Christ, ceux-là, ils dorment en fait. Ils dorment, pourquoi? Pourquoi on dit ils dorment? Parce qu'ils sont ressuscitables. Ils sont réveillables. Hein? Quand un certain cri va venir, un cri strident va venir, ils vont se réveiller. Hein? Si vous criez, si vous jouez de la trompette devant quelqu'un qui dort profondément, s'il ronflait, vous allez voir, il va s'arrêter de ronfler. Continue à jouer de la trompette, il va se lever, il va vous regarder, il va se fâcher parce que vous l'avez réveillé, n'est-ce pas? Par contre, ici, les gens ne se fâcheront pas pour cette trompette-là, et les gens seront contents, heureux. Ils vont se réveiller avec des gloires à Dieu. Amen. Et ils se verront vivants. Ensuite, donc, eux, ils vont d'abord ressusciter. Après eux, donc, c'est un peu eux qui nous devanceront dans quelque chose. Mais d'abord, enfin, ne nous devancerons pas en rien, personne ne devancera quiconque, mais eux, il se passera d'abord quelque chose avec eux.
Oui.
Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Oui, maintenant, nous ne serons pas enlevés, enlevés n'importe comment, en étant dans n'importe quel état, mais nous aurons été transformés. Amen. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 15. Nous aurons été transformés. Une chose qui va arriver à tous ceux qui sont en Christ, ceci va arriver au verset 51, 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ça, tant les morts en Christ que les vivants en Christ. Nous serons tous changés, nous serons tous transformés, nous formerons tous Christ. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles.
Alléluia.
Et nous, nous serons changés. Amen. Vous le croyez? Nous serons changés. Donc, ce qui nous arrive, pendant que nous allons à sa rencontre, nous le chantons, c'est pour notre bien. Ces choses nous arrivent, c'est pour notre bien. Et ça demande à ce que nous puissions persévérer. Nous avons besoin de persévérer. Ça peut déchirer à l'intérieur, mais que ça déchire, c'est pour notre bien. Ça peut vraiment nous tracasser, ben c'est pour notre bien. Il faut que ça nous fasse tourner vers la parole.
Amen.
Et pour ceux qui sont partis, ben ils sont allés se reposer.
Amen.
Dieu sait l'état dans lequel ils sont arrivés. S'il les fait partir, il a un but.
Amen.
Parce que le but de Dieu est de ne pas, est de ne pas nous rater. Dieu veut que tous ceux que le Père lui a donnés, il les veut tous auprès de lui. Il ne veut pas qu'un seul manque à l'appel. Amen. Et c'est ainsi que, bon, il nous dit, l'apôtre nous dit, consolez-vous par ces paroles. Allez à sa rencontre. Pendant que vous allez à sa rencontre, vous passerez des moments difficiles. Vous aurez des déchirements. Vous aurez des difficultés, mais tout cela, c'est dans le but de vous rendre semblable à Jésus-Christ.
Amen.
Vous ne vous êtes pas trompé de chemin. C'est normal que ces choses arrivent sur ce chemin. Il est normal que nous rencontrions des difficultés. Prions le Seigneur. Prions. Père Céleste, l'ordre vient. Ce cri qui nous dit, voici l'époux, pendant qu'il nous est présent. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Fasse, Seigneur, que nous puissions être remplis de cette huile merveilleuse, afin que le chemin soit éclairé pendant que nous y allons. Tout le long du chemin, que nous puissions avoir la victoire sur chaque obstacle, que nous puissions avoir la victoire dans chaque combat. Et si nous, à un moment donné, si nous devons nous coucher, que nous puissions être couchés en Christ. Car là même, l'époux viendra nous chercher. Il criera notre nom. Et nous nous lèverons. Et nous voulons être reconnaissants ce soir, parce que ces paroles sont des paroles qui nous donnent la persévérance, qui nous consolent dans les moments difficiles. Ce sont des paroles qui nous donnent la victoire dans nos combats. Nous te bénissons, nous te remercions. Et Paul a parlé, il a dit qu'il a reçu ces choses du Seigneur. Et lorsque nous recevons de toi quelque chose que nous prononçons, nous pouvons dire comme David, nous allons au combat au nom de l'Éternel. Si nous allons en ton nom, la victoire est sûre, comme dit le cantique. Sois béni, sois loué. Prends-nous par la main. Et pour les cœurs endoloris, qui sont douloureux, aujourd'hui, dans la souffrance, je te demande tout simplement d'appliquer le baume de Galate. Oh, cette parole merveilleuse qui console, oh Dieu, qui soutient, qui encourage, oh Père, qui guérit également. Si c'est la maladie, Nous avons auprès de toi des promesses de guérison que nous accrochons vraiment à nos cœurs, oh Dieu, pour nos bien-aimés, et que nos bien-aimés qui sont malades, qui souffrent, ils puissent en bénéficier. Nous te remettons également les sœurs qui doivent faire un pénible voyage demain. Et demain soir, ils arriveront ici dimanche, que tu nous aides à pouvoir les accueillir. Et toi, tu viennes, que tu nous aides à les accueillir avec des paroles de consolation, d'encouragement, des paroles d'amour. Oh Dieu, que nous puissions vraiment leur manifester. Béni soit ton saint nom. Accompagne chacun d'entre nous dans sa maison ce soir et te demandons d'être avec nous si tu tardes à venir, que dimanche nous puissions nous retrouver encore autour de ta parole. Dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse.